des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le commentaire de
Mathieu Boccoté. Dépensé, pas comme les autres.
Alors Mathieu, ça a l'air que demander aux gens d'où ils viennent, c'est une micro-agression.
Ouais, alors c'est un, tu as eu l'occasion de parler dans une de tes chroniques récemment. C'est une étude parue d'abord dans Actualité UQAM, qui réfère une thèse de doctorat, si je ne me trompe pas, qui était reprise ensuite dans le journal Métro ces derniers jours, qui nous expliquait que des jeunes issus, l'échantillon était assez limité, mais issus de l'immigration africaine, ressentaient, soit ils étaient nés au Québec, mais ils étaient issus de l'immigration par leurs parents, ils se sentaient agressés lorsqu'on leur demandait quelle était, par exemple, leur origine. C'est une forme de micro-agression, un rappel à l'origine d'une manière ou de l'autre qui serait particulièrement violent symboliquement à leur endroit. Donc, c'est assez intéressant de voir comment les gestes élémentaires de la courtoisie aujourd'hui,
ben oui,
qui consistent à demander à s'enquérir de quelqu'un, c'est-à-dire d'où vous voyez votre prénom, quelles sont vos origines, ce qui était autrefois des marques de courtoisie, c'est retraduit dans la logique de l'idéologie dominante, c'est retraduit comme des gestes d'agression, de discrimination même. Autre élément assez intéressant là-dedans, et ça m'a frappé, c'est qu'on nous explique que ces jeunes ont une image très négative des Québécois dits francophones, mais une image beaucoup plus positive des anglophones. Et on nous présente ça comme s'il s'agissait d'un point de vue légitime. C'est-à-dire, s'ils ont un point de vue négatif sur les francophones, c'est donc que les francophones ont quelque chose à se reprocher d'une manière ou de l'autre. Mais ce serait intéressant de savoir, imaginons qu'on fasse une étude inverse, puis on questionne les Québécois francophones sur différents groupes issus de la diversité. Donc, si certains de ces groupes-là, il y avait un point de vue qui était plutôt négatif, qu'est-ce qu'on dirait immédiatement? On dirait les Québécois ont des préjugés, ils ont des stéréotypes, ils sont dévorés par le refus de l'autre. Et dès lors, ils doivent se réformer, ils doivent réformer leurs préjugés. Bon, ils doivent déconstruire leurs préjugés. Mais quand les préjugés, les mauvais sentiments sont à l'endroit des Québécois francophones, alors là, c'est les Québécois francophones qui sont eux-mêmes responsables de la mauvaise image qu'ils dégagent. Donc, on est encore une fois dans la logique du deux poids, deux mesures, qui me fascine. Hein. C'est vraiment au cœur du régime diversitaire, il y a ce deux poids, deux mesures, et on le voit quand on dit, par exemple, que le racisme est unilatéralement, c'est le blanc versus le non-blanc, ou le racisé, on dit aujourd'hui, et jamais en sens inverse. Le sexisme, c'est l'homme par rapport aux femmes, et jamais en sens inverse. La haine, c'est la majorité par rapport à la minorité, mais jamais en sens inverse. Eh bien, s'il y a des préjugés négatifs à l'endroit des populations issues d'immigration, c'est la faute des Québécois qui sont dévorés par leurs préjugés. Et si les Québécois paraissent mal, ben c'est de la faute des Québécois francophones. Alors, parce qu'ils se rendraient coupables finalement de la mauvaise image qu'ils rendent d'eux-mêmes. On est dans une espèce de système explicatif qui est fondamentalement déréglé.
Non, mais c'est
fondamentalement déréglé et qui dérègle finalement notre capacité à lire les rapports sociaux.
C'est pile je gagne, face tu perds.
Oui, non, mais c'est exactement ça. Et là, on nous présente ça comme une enquête particulièrement intéressante du point de vue de la compréhension des rapports sociaux. C'est une enquête qui vient... Et pourquoi est-elle, reçoit-elle? Parce qu'il y a beaucoup de thèses de doctorat qui se font. Pourquoi l'une d'entre elles trouve-t-elle soudainement un tel écho? Mais parce qu'elle vient radicaliser, renforcer la logique du régime, en quelque sorte, qui est fondée sur une forme de culpabilisation en toutes circonstances des majorités. Hein, les peuples historiques des nations d'Occident, les majorités historiques, c'est tout ce qui permet de les culpabiliser, faire leur procès sur un bord ou sur l'autre, eh bien, c'est légitimé. C'est assez intéressant, finalement, de voir comment, à travers tout cela, eh bien, c'est le simple droit d'un peuple d'exister, puis d'avoir ses mœurs, d'avoir sa culture, puis de faire en sorte que ceux qui le rejoignent, eh bien, sont appelés à prendre le pli de cette culture-là. Tout cela, aujourd'hui, est mis en procès. Mais... J'ajoute une chose dans la petite enquête qui nous était présentée. Eh bien, on nous expliquait aussi que le Québec était finalement assez décevant pour ces gens, et ils rêvaient de s'en extraire, en quelque sorte. Ça vient un peu confirmer le sentiment qu'on a quelquefois, que le Québec est une forme de porte d'entrée sur l'Amérique, quelquefois, mais c'est plutôt décevant, pas à la hauteur de l'Amérique, avec plein de francophones bouseux qui s'entêtent à parler une langue, d'ailleurs, qu'on nous dit souvent, ça, c'est pas dans l'enquête, heureusement, mais qu'on se voit souvent sur les réseaux sociaux, les gens nous diront, ils veulent préserver leur langue, mais en plus, ils la parlent mal. Et là, donc, une forme de mépris, mais ce mépris ne doit jamais être nommé. Mentionner ce mépris, ça serait participer ajouter, bien évidemment, au racisme. Il y a quand même, à un moment donné, on a envie de dire c'est assez.
Et c'est comme si seulement les personnes noires se faisaient demander d'où elles viennent, je m'excuse, mais les Français sur le plateau se font demander de quel coin de la France vous venez, est-ce que, alors que peut-être cette personne-là est née ici. Les Belges, les Suisses qui ont un accent, les Madelinos, les gens c'est comme si seulement on posait ces questions-là seulement aux gens racisés. Voyons.
Ah ben, je pousserais ça plus loin pour le dire avec amusement. Je veux dire, moi qui viens de la rive nord de Montréal, pour une raison qui m'échappe, je me fais demander quelquefois d'où je viens. Et là, je le prends jamais mal. Hein. Pour vrai, là, tu sais, je réponds généralement, 1625, le premier côté arrive en Nouvelle-France. Bon, mais ça fait un boom, je viens de France apparemment. Bon, il y a quand même, à un moment donné, cette capacité de tout coder en termes de discrimination, de tout coder en termes d'exclusion, de tout coder en termes de gestes racistes, consciemment ou inconsciemment, ça rend la société non seulement illisible, mais invivable. Et c'est pour ça que là-dessus, j'ai l'impression que cette sociologie un peu déréglée, à terme, va engendrer des problèmes. Elle croit résoudre des problèmes sociaux. Mais en fait, c'est une machine à antagoniser les groupes comme pas possible. C'est une machine à créer des groupes sur le mode de l'identité raciale. C'est une machine qui pousse les gens à se désigner d'abord selon la couleur de leur peau. C'est une machine qui pousse les gens à se définir les uns contre les autres, qui nous éloigne de la logique nationale, qui, elle, est une logique d'intégration. Moi, je suis assez effrayé par tout cela et par le fait que c'est présenté sous le signe de la bonne conscience et de la science chaque fois.
Et tu as vu aussi un texte dans la presse assez délirant qui s'intitule « Qui a peur des woke ?» où là, soudainement, là, on semble que les woke, c'est pas si dangereux que ça. En fait, c'est les gens de droite qui arrêtaient de taper sur les woke. C'est des gens, au contraire, progressistes qui veulent nous faire évoluer, etc. Donc, qui prend la défense de cette meute qui veut faire taire ceux qui ne pensent pas comme eux à tout prix.
Ce qui n'est pas surprenant, paradoxalement, pour la raison suivante, c'est que moi, ça fait un bon moment que j'ai dit que les woke, appelons ça comme ça, ne sont que l'avant-garde militante de ce que j'appelle le régime diversitaire. Ils représentent le prochain consensus. Ne nous trompons pas, ce qui passe pour fou en ce moment, dans 10 ans, ça va passer comme pour normal. Et n'oublions jamais, ça c'est mon obsession, je le répète chaque fois, mais nous vivons dans une société où il est scientifique d'affirmer que les hommes et les femmes n'existent pas et que la fluidité de l'identité de genre est le nouveau fondement de l'identité sexuelle. Au nom de la science, c'est assez amusant, au nom de la lutte contre la post-vérité. Donc, on est devant l'avant-garde militante, et que nous disent les plus modérés du régime diversitaire? Ils trouvent qu'ils vont un peu loin, les woke, par leur méthode. Ben, ça va un petit peu loin. Mais ils vont quand même dans la bonne direction. Ils nous expliquent, oui, il y a 3 ou 4 farfelus, peut-être 5 ou 6, s'il le faut. Mais tant que ça, vraiment, faut-il exagérer? Et là, quand on leur fait remarquer que, non, un instant, quand on regarde l'ensemble des postes universitaires aux États-Unis, par exemple, d'ailleurs, Guillaume Marois le faisait remarquer ce matin sur sa page Facebook, Guillaume Marois qui prend et qui documente ça assez finement, pour rentrer dans des grandes universités, là, comme professeur, mais même pas en sciences sociales, en physique, en mathématiques, tout ça, eh bien, il faut montrer comment nos travaux, d'une manière ou de l'autre, participent à la promotion de l'inclusion et de la diversité. Faut pas oublier que dans certains départements, c'en est amusant, on nous explique que l'enseignement des mathématiques est lié à la suprématie blanche. Il fallait quand même y penser. Il fallait y penser, mais ils y ont pensé. Donc non, on n'est pas devant des faits divers qui seraient amplifiés par la méchante droite identitaire. D'ailleurs, c'est amusant. Je me rappelle l'autre fois à la télévision, à la radio-télévision fédérale, à l'émission du dimanche soir, Isabelle Haché, qui par ailleurs a fait un travail qui vaut la peine de noter sur toute l'espèce de délire dans les universités, mais qui elle-même est manifestement mal à l'aise avec tout ça, nous dit « Oui, mais là, les woke, faut pas exagérer, c'est une étiquette. » C'est génial ce qu'elle nous dit. « C'est une étiquette, d'ailleurs, qu'ils ne revendiquent pas, qui leur est collée dessus par les gens de la droite identitaire. » OK, là, t'as envie de dire, mais chère Isabelle, vous êtes au courant que droite identitaire, je connais personne qui se réclame de ça. Donc, au moment de condamner une étiquette et par ailleurs revendiquer, vous plaquez une étiquette sur les gens en face qui font soit du tabac,
et toi,
critiques que vous critiquez depuis des années.
Et toi, l'étiquette qu'on te met là, en disant réactionnaire, puis tu sais, tout ça, voyons donc.
Mais évidemment, c'est comme d'ailleurs en France, la querelle sur l'islamo-gauchisme qui est assez drôle. Alors, peu importe, le concept d'islamo-gauchisme est effectivement un concept assez qui a ses limites. Mais ce qui est drôle, c'est que des gens qui nous expliquent qu'il y a des concepts comme racisme systémique, privilège blanc, fragilité blanche, fluidité de l'identité de genre. Eh ben, ça, c'est des concepts scientifiques. Mais islamo-gauchiste ne l'est pas. Il faut quand même m'amener. Donc, moi, je suis persuadé. En fait, c'est une chose qui m'obsède depuis des années. l'étiquetage idéologique et politique est au cœur des méthodes qui permettent de gérer les réputations en société. Et ce que l'on voit en ce moment, c'est une volonté de faire en sorte que la critique du wokisme doit être réduite à la critique de ces expressions. On veut réduire ça à des espèces de faits divers exagérés rapportés par des médias sensationnalistes, mais on refuse de prendre au sérieux la tendance lourde. Et au même moment, on dit tout ça, c'est la faute à la méchante droite identitaire dont personne ne se réclame, mais qu'il faut dénoncer rituellement pour faire partie du bon camp.
C'est incroyable, c'est hallucinant, ça dégouline de mauvaise foi. Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Bonne journée.
Bonne journée. Bye bye.